crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un curieux objet, un crochet en bois, fibre et coquille d'huître perlière. Il mesure 73 cm de haut et 1,66 m de large. Il appartient au groupe linguistique des Yatmoul de la vallée du Moyen Sépik, immense marais qui s'étend au nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était au cœur de l'immense maison cérémonielle dans laquelle seuls les hommes initiés pouvaient pénétrer, qui était suspendu probablement à l'un des grands poteaux centrales, cette étrange sculpture féminine, cette figure ancestrale qui renvoie aux temps mythologiques les plus anciens des Yatmoul. Ce peuple, installé en effet au bord du fleuve Sépik, au nord-ouest de Papouasie. La figure de l'ancêtre vous observe sévèrement de ses yeux blancs en coquillage spiralé. Le visage de bois rehaussé de terre rouge est tendu vers son regardeur. Les arcades sourcilières sont bien modelées et les ailes du nez sont prolongées par des pommettes saillantes. Les oreilles, extraordinairement ajourées, ourlées d'une parure en chevron, semblent ouvertes aux prières des anciens qui sont venus la supplier. Le sculpteur a donné à son personnage une attitude d'attention extrême. Les épaules fortement scarifiées sont relevées et les mains en appui symétrique sur les cuisses donnent une sensation de puissance concentrée. Tout le haut du corps porté par l'œil insistant du nombril bascule, attentif, au-dessus des longues jambes écartées, perpendiculairement au corps. Elles sont relevées vers leur extrémité, curieusement terminées en tête de serpent ou peut-être d'oiseau. La vulve de la femme apparue dans cet extrême écartement est ainsi exhibée, ouverte et offerte à l'attention de celui qui va, sur les pics qui sont fichés en haut des jambes, offrir à l'ancêtre, à la tête de l'ennemi ou la simple offrande de quelques noix d'érec. Qui est cet ancêtre? Quel est l'usage de la sculpture extraordinaire qui la représente? Quels sont les mythes et les coutumes d'Yatmoul? C'est ce que nous verrons pendant cette émission avec Philippe Pelletier.
Dans chaque grande maison cérémonielle se trouve un tabouret spécial qui diffère des tabourets ordinaires sur lesquels s'asseyent les hommes en ce qu'il possède un dossier comme une chaise avec des sculptures représentant des ancêtres totémiques. On n'utilise pas ce tabouret comme siège et n'est pas question de le manier avec désinvolture s'il se trouve être un spécimen ancien et sacré. Il sert uniquement de table pour les débats. La maison cérémonielle est aussi le lieu de rencontre où s'organise une grande part du travail quotidien de la vie des hommes. C'est là qu'ils discutent de la chasse, de la pêche, de la construction de leur maison et de la taille de leur pirogue. Ils se livrent à ces activités de la même manière spectaculaire que pour le rituel. Les hommes se répartissent en groupes dans leur grande pirogue pour aller chasser ou pêcher, ou bien ils s'en vont ensemble en groupes plus importants pour couper des arbres dans la brousse. Ces groupes se réunissent en frappant de façon rythmée les grands tambours fendus qui sont dans la maison cérémonielle. Et si le travail s'effectue non loin de la maison cérémonielle, on frappe les tambours pour infuser la vie aux travailleurs. Enfin, l'accomplissement de toute tâche importante est marqué par une représentation dansée ou une cérémonie spectaculaire. Gregory Bateson, La cérémonie du Naven, 1936.
« Nous entendions le grand anthropologue Grégory Bateson décrire cet endroit fondamental qu'est la maison cérémonielle. Mais avant de rentrer plus en détail dans les mœurs des populations sépiques et surtout dans l'examen de cette extraordinaire sculpture que nous examinons aujourd'hui, je dois vous présenter notre invité, Philippe Pelletier. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
C'est très bien, merci.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes conservateur général au musée du Quai Branly, responsable de l'unité patrimoniale Océanie-Insulin, d'un immense territoire. Et surtout, vous avez été le commissaire de cette extraordinaire exposition sur le CEPIC, d'autres expositions fameuses, je pense en particulier, mais c'était il y a déjà quelques années, la grande exposition sur la Nouvelle-Irlande que vous aviez fait là-bas. Et je sais que vous êtes en train de préparer une réflexion, et peut-être qu'il sera une exposition un jour, sur Félix Fénéon, ce grand regardeur. Grégory Bateson, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Qui était-ce ?
C'est un jeune Anglais qui étudie à Oxford la biologie comme beaucoup de gens à l'époque et qui, en fait, dans un train, un beau jour, rencontrait un anthropologue, se convertit à l'anthropologie et part en Nouvelle-Guinée. C'est un monsieur qui a eu une carrière absolument extraordinaire parce que il a terminé à Palo Alto en Californie et il a été complètement fasciné par les systèmes double band, hein, tout ce qui va donner la naissance en fait à la réflexion et tout ce qui va devenir les ordinateurs par la suite. Et à la fin, il a travaillé aussi avec des dauphins. Sur le langage des dauphins, la communication entre les dauphins. Et en 30, s'il s'en va en Nouvelle-Guinée, il arrive chez Yatmoul. En fait, il n'avait pas trop le droit d'y aller, parce que c'était encore un territoire qui n'était pas complètement contrôlé par les Australiens.
Il y avait une sorte de transmission entre les Allemands et les Australiens. Comment est-ce que ça s'est passé?
La transmission, elle a été en D14. En fait, les Australiens sont arrivés en 1914. Les Australiens sont arrivés, ont pris le pouvoir sur le nord de la Nouvelle-Guinée. Ils n'ont pas eu beaucoup de mal parce que je crois qu'il y avait 70 Allemands à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de militaires, ni rien. Donc ils sont arrivés, puis ils ont pris le pouvoir et puis petit à petit ils ont pris le contrôle de la rivière que les Allemands n'avaient pas beaucoup contrôlé. Hein.
Et c'est le moment où Bateson arrive.
Il arrive en 31-32. Il va y rester un an. Il s'installe d'abord dans un village qui s'appelle Tambanum, qui est le premier village Yatmoul qu'il rencontre. Et puis, il reviendra après aussi. Et puis, il va rencontrer une autre dame absolument incroyable qui s'appelle Margaret Mead.
C'est une histoire d'amour, non ?
Ah ouais, ça a été une histoire. Margaret Mead était partie sur le terrain avec son mari qui s'appelait Roy Fortune. Qui avait fait déjà du terrain en Nouvelle-Guinée avant la guerre. Et puis elle repart avec Roy Fortune. Et quand elle arrive à Tambanum, en voyageant sur le CEPIC, elle cherche des groupes en fait exemplaires, comme elle savait faire. Et elle voit un monsieur qui est un monsieur. Grégory Bateson était très très grand. Et elle voit un monsieur très grand, très très beau, dit-elle, en train de prendre sa douche. Il a une barrière devant lui, enfin quand même, hein, il est en partie caché quand même. Et là, elle tombe follement amoureuse de lui. Et ils vont partir en fait travailler ensemble. Elle largue le pauvre Roy Fortune et ils vont aller travailler ensemble ensuite dans un autre village, d'abord à Tambanum puis ensuite dans un village qui s'appelle Palimbay.
Et donc ça va être des témoignages extrêmement importants pour la connaissance
absolument.
De la Papouasie.
Oui, absolument. Oui, non, c'est des livres fondamentaux, surtout celui de Bateson, parce que celui de Bateson, il essaie d'expliquer une cérémonie qui s'appelle Naven et qui est en fait une cérémonie d'inversion où à un moment donné les d'inversion des sexes. C'est-à-dire que les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Et il essaie d'expliquer ce phénomène absolument incroyable. Il y arrivera plus ou moins, aussi le livre a été tellement fondamental dans les études de Nouvelle-Guinée, d'abord parce que c'est un des grands livres sur les sépiques, que dans les années 70, quand l'université de Bâle décide de refaire une grande expédition sur les sépiques, en fait c'est Naven... ils partent à la suite de Naven, en fait, pour vérifier ou continuer le travail qu'on a entrepris par Gregory Bateson. Et il y a une expédition très importante qui se met en place.
Alors peut-être, Philippe Pelletier, on va écouter à nouveau Gregory Bateson nous décrire la maison cérémonielle, l'endroit où peut-être était installée la sculpture que nous considérons aujourd'hui. Mais en un mot, vous parlez du Sépik comme si on y avait été. Qu'est-ce que c'est le Sépik ?
C'est un grand marais, avec très large, dans lequel, à peu près 80 km de large, dans lequel coule un fleuve très long, 1000 km de long.
En effet, oui.
1258, je crois, plus exactement. À l'embouchure, il fait 1,5 km de large. En fait, les gens sont installés sur les berges du fleuve, ou des affluents du fleuve, les maisons sont installées, les villages sont installés sur les berges, et derrière il y a un énorme marais, et c'est ponctué en fait par deux saisons, une saison sèche où là on peut à peu près marcher dans certaines zones, pas partout, en général on circule en pirogue, puis une saison des pluies où alors là c'est hors de question de circuler à pied, on est constamment en pirogue, et au milieu des moustiques.
Alors on va écouter Gregory Bateson nous parler de la maison cérémonielle. Je rappelle simplement que cette maison cérémonielle est effectivement l'élément le plus important de la communauté, et c'est là qu'ont lieu non seulement les conversations essentielles entre les initiés, mais la disposition également d'objets extrêmement importants au riche contenu symbolique. Écoutons-le.
La maison cérémonielle est un magnifique édifice de 40 mètres de long, avec des pignons en forme de tour à chaque extrémité. L'intérieur de l'édifice offre une longue perspective d'une extrémité à l'autre, le long des piliers de soutènement, comme la nef d'une église obscure. La ressemblance avec une église trouve son prolongement dans l'attitude des indigènes envers l'édifice. Il y a une série de tabous sur toute espèce de profanation. Nul ne doit égratigner le plancher, ni endommager la boiserie. Un homme ne doit pas traverser l'édifice pour sortir de l'autre côté, ce qui apparaîtrait comme une manifestation d'orgueil exagéré, une sorte de prise de possession de l'édifice. Mais il doit faire le tour et s'esquiver par l'une des entrées latérales. Toutefois, il ne faut pas pousser trop loin l'analogie entre la maison cérémonielle et une église, et cela pour plusieurs raisons. La maison cérémonielle ne sert pas uniquement de lieu de rituel, mais aussi de cercle où les hommes se rencontrent pour bavarder, et également de salle de réunion où ils discutent et se querellent. De plus, la maison cérémonielle n'est pas pour les indigènes le symbole de leur dévotion, mais plutôt celui de leur fierté de chasseurs de têtes. Alors que nous considérons une église comme un lieu sacré et frais, la maison cérémonielle est chaude pour eux, imprégnée de chaleur par la violence et par les meurtres que sa construction et sa consécration ont nécessité.
Philippe Pelletier, l'œuvre que nous examinons dans cette émission Les Regardeurs, ce grand crochet en forme de femme, ancêtre, femme archaïque, déesse, vous allez nous le dire, était effectivement suspendue dans la maison cérémonielle ?
Elle devait l'être. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette sculpture. Ce sont des choses qui ont disparu assez vite, ces grandes sculptures, parce qu'elles ont été... D'abord, il n'y en avait pas beaucoup. C'était quand même des œuvres tout à fait exceptionnelles. Elles ont été... beaucoup ont été collectées par les Allemands avant 14. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a beaucoup d'objets qui viennent des collections allemandes, surtout des collections allemandes, parce que c'est vraiment... Et baloise, parce que c'est les plus riches. On a effectivement des grands crochets dans les maisons qui sont...
Philippe Pelletier, je vous interromps, mais qu'est-ce que c'est qu'un crochet au sens de là? Ça vous fait rire parce que vous croyez que c'est évident, mais pas pour nous.
Non, c'est vrai, c'est pas évident pour nous, surtout qu'il y a plusieurs types de crochets. Il y a des vrais crochets dans lesquels on suspend les sacs dans lesquels on met la nourriture, par exemple le matin, dans les maisons familiales, le matin les femmes préparent la nourriture pour la journée avant de partir à la pêche. Et elle distribue cette nourriture dans des petits sacs. Chaque membre de la famille a un petit sac avec la nourriture pour la journée. Et les hommes qui ont couché dans la maison familiale, par exemple, prennent ce petit sac le matin et s'en vont dans la maison des hommes, comme Betson vient de l'expliquer dans le texte qui vient d'être lu. Et ils ont des crochets aussi dans lesquels ils suspendent leur sac avec la nourriture.
Crochets ornés souvent sur
oui,
une
ou pas. Ou pas. Ou pas, ça peut être simplement un morceau de bois, une branche. Et puis alors, il y a des crochets plus importants. Il y a des crochets qui sont des crochets à figure, effectivement, parce que c'est les crochets des ancêtres des clans. Alors là, c'est une autre histoire. Parce que un ancêtre clanique, d'abord, c'est une figure ancestrale, c'est-à-dire que c'est une figure qui est puissante. C'est une figure qu'on doit respecter, comme on respecte la maison des hommes. Hein. C'est une figure aussi qui... les ancêtres, en fait, ce sont des gens qui ont édicté la loi de la société. Et c'est très important dans pour les sociétés du CEPIC de respecter cette loi. Ne pas transgresser cette loi est aussi normalement quelque chose de fondamental. Bon.
Quand vous dites fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de respecter la bienséance collective, mais l'équilibre cosmique quasiment entre le terrestre et le monde des ancêtres.
Absolument, absolument. Ça ne veut pas dire qu'on le respecte tout le temps.
On peut transgresser quand même.
On n'arrête pas de transgresser. Parce que comme dans nos sociétés, on n'arrête pas aussi de transgresser les lois. Hein, c'est, bon. Et donc là-bas, ils transgressent les lois. Sauf que, pour eux, on est toujours sous le regard des ancêtres. Les ancêtres, c'est quelque chose qui vous observe, qui regarde comment se comportent les hommes, etc. etc. Et si vous transgresser cette loi, les ancêtres vont vous punir. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour nous, société occidentale, que moi, j'ai mis très longtemps à comprendre. On me disait, par exemple, dans le village, « Ah bah non, tu sais, non, tu verras pas machin aujourd'hui, il est malade. » « Ah oui ? » ?»« Il est malade, oui. » »« Oui, oui, non, il est malade. Bon, je sais pas, on peut peut-être lui donner des médicaments. »« Ah non, 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 ça marchera pas. Non, non. Non, non, il a... Non. » Non, c'est son ancêtre qui l'a puni. Il avait transgressé une loi. Et effectivement, c'est ton ancêtre à toi. Hein. C'est pas l'ancêtre du voisin qui te punit, c'est ton ancêtre à toi qui te punit. Et donc, à chaque fois qu'on fait une action dans les sociétés du CEPIC, il faut respecter cet ancêtre et il faut surtout lui donner des offrandes pour se le concilier. Et si on a par hasard... transgresser une loi, faire que...
Irréparation,
ouais, c'est ça. On puisse se rabibocher avec l'ancêtre pas content.
Et voilà. quelques sacrifices ou quelques offrandes peuvent permettre une réconciliation.
Oui, absolument. Oui, on réattire l'attention, en fait, de l'ancêtre sur soi.
Et donc, est-ce que ces figures ornées, que vous appelez les crochets ornés, sont effectivement le lieu ou l'entité qui accueille les offrandes de réconciliation qu'on veut faire?
Absolument.
C'est propitoire, en
absolument.
Fait.
Absolument, oui, oui. Il y a un certain nombre de crochets qui ne sont réservés, en fait, qu'à ça. Et d'ailleurs, on en voit dans l'exposition, ils ont des tout petits crochets qui sont presque plus fonctionnels. Mais on met ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire des noix d'arec. Hein. Une noix d'arec, c'est du bétel. Ça sert au bétel. Le bétel, c'est quelque chose qu'on mastique, en fait. Si vous êtes allé en Inde, par exemple, vous avez vu des gens mastiquer du bétel. C'est quelque chose de très important dans le CEPIC, le bétel. Hein. C'est... parce que ça réchauffe la parole, hein, ça soulève la parole, le bétel, ça donne une légère ivresse comme ça qui fait qu'on parle plus facilement, puis on a le courage de parler devant tout le monde et puis d'affirmer son point de vue. Et donc c'est quelque chose aussi, la parole, ça vient des ancêtres aussi. Donc c'est aussi donner du bétel, c'est favoriser la parole de l'ancêtre.
Donc ça favorise la circulation. Absolument. Entre la société d'aujourd'hui et les ancêtres fondateurs, en
absolument.
Fait.
Absolument. Et donc ces grands crochets tels que celui que vous avez choisi et que vous avez décrit tout à l'heure, qui est effectivement une pièce tout à fait étonnante, impressionnante, et probablement été dans les grandes maisons des hommes. Et c'est là où on suspendait un certain nombre d'offrandes lors des cérémonies.
Alors quand c'était pas des noix d'arec, ça pouvait être des têtes ramenées de la chasse aux têtes. C'est tout de suite, on est dans le romanesque. Qu'est-ce que ça veut dire?
De quoi, la chasse aux têtes?
Oui.
Bah, ça veut dire qu'on va chez le voisin et puis dès qu'on peut, toc, on coupe une tête puis on la ramène parce que...
Mais quel est l'intérêt de ramener une tête?
Le prestige. C'est des sociétés du prestige. C'est les sociétés qui ont des structures comme ça très, très, très compliquées, en fait. C'est les sociétés qu'on dit à big man.
Redites le mot.
Big man.
Ah, big man, les grands hommes.
Hein, les grands hommes. Alors, bon, il y a un problème de traduction hein, des choses, mais ça veut dire que on acquiert son pouvoir dans la société en accumulant un certain nombre de richesses que l'on va distribuer, ou un certain nombre de biens, que l'on va ou montrer ou distribuer lors des grandes occasions, des grandes cérémonies. Parmi les biens qu'un clan accumule, c'est les têtes. Parce qu'on ne chasse pas seulement la tête, on chasse le nom. Quand les gens vont à la guerre, en fait, ce qui était très, très important, c'est que quand soit la personne, avant de mourir, dit son nom, arrive à dire son nom, alors, parfois, elle n'arrive pas, hein, alors ça fait « orgre », comme ça, bon, voilà, il peut y avoir des gens qui s'appellent « orgre ». Soit les gens qui sont en face, les ennemis, disent le nom de la personne qu'on vient de tuer. Ils clament à travers le champ de bataille, ils disent le nom de la personne qu'on tue. Et dont on va ramener le corps, ou dont on va laisser le corps, ou couper la tête, mais en tout cas ramener la tête. Et donc on accumule comme ça du pouvoir à travers les noms. Le nom, c'est quelque chose, là aussi très compliqué pour nous à comprendre, mais les noms, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans les sociétés du CEPIC. Les gens vous racontent pendant des heures et des heures, des généalogies et des variations autour des noms, etc., etc.
Chaque clan qui peut être, il y a plusieurs clans dans un village, chaque clan a ses ancêtres et chaque clan a les pouvoirs de ses ancêtres et probablement des privilèges qui sont liés spécifiquement à ce lignage, c'est cela?
Oui, absolument. Absolument.
Et si on oublie un nom, on déséquilibre le...
On dit pas qu'on oublie un nom. Jamais ça. Non, non. On peut le transformer. Probablement, les noms se transforment au cours du temps, etc. Mais il y a des. En plus de ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des versions publiques du nom, puis il y a des versions secrètes du nom aussi. Et donc, probablement, ces sculptures aussi, elles sont nommées. Hein, elles avaient un nom. Le problème, c'est que quand les gens les ont achetées, on n'a pas reconnu les noms.
En fait, ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur la sculpture en question.
Non.
Mais on sait qu'elle vous écoute. Chers auditeurs, attentivement avec ses grandes oreilles, et donc elle écoute les noms du lignage, elle a elle-même un...
Non, elle a elle-même des noms. Et suivant les noms qu'elle a, elle est de plus ou moins importante, et on peut lui donner plus ou moins d'importance, et ça... Et c'est... Chez les Yatmou, les ancêtres, ils sont pas dans les sculptures, ils sont pas présents dans les sculptures. Les ancêtres, ils peuvent, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, les ancêtres, ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Les ancêtres, c'est... On a dit à un moment donné, à la fin de l'exposition, on a parlé de la peau changeante des ancêtres. Ils peuvent avoir des manifestations tout à fait extraordinaires.
Ils peuvent devenir crocodiles, pitons, oiseaux, etc.
Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Reflet sur de l'eau, etc. Et les sculptures, c'est une manifestation d'ancestralité. Mais les sculptures aussi, c'est pareil, c'est une enveloppe. Et en fait, on peut appeler n'importe quel ancêtre dans une sculpture, et particulièrement dans un crochet de ce type. On peut appeler n'importe quel ancêtre, en fait, en lui donnant un nom.
D'accord. Donc, cette enveloppe vide, c'est une notion très importante, est totalement inerte dans certaines circonstances. Vous la nommez et elle prend son pouvoir et son intensité.
Absolument. Et vous la réchauffez aussi par un certain nombre de sacrifices que vous pouvez faire. C'est comme une maison des hommes. C'est ce qu'explique Bateson dans son texte très bien. Hein. Il dit les maisons des hommes sont chaudes. Les maisons des hommes, elles sont pas chaudes tout le temps. Dans la vie de tous les jours, la maison des hommes, elle est chaude, oui, évidemment. Mais il y a des moments où vous allez la réchauffer encore plus, si vous voulez, où elle va devenir presque bouillante. C'est au moment des grandes cérémonies, par exemple, on va orner la maison des hommes, on va suspendre des choses sur les façades, on va en faire sortir, par exemple, des lances. À travers la façade, on va jeter des lances. Les lances vont sortir. La maison va devenir complètement hérissée par des lances. Et là, elle est chaude. Okay. Mais elle est chaude aussi par la présence des ancêtres qui sont là. Parce que, par exemple, Bateson ne le dit pas, mais dans le texte, je crois qu'il le dit ailleurs dans Haven, quand on construit une maison des hommes, le grand poteau central, sur lequel vous avez dit on peut accrocher ces grandes sculptures, effectivement. Le grand poteau central, en fait, au moment où on va l'ériger, les gens courent avec le poteau, et on va projeter un homme au fond du trou, au moment où le poteau va rentrer dans le trou. Okay. C'est-à-dire que l'homme va être écrasé.
Donc il y a un sacrifice fondateur.
C'est un sacrifice fondateur. Et toute la maison, en fait, repose sur ce sacrifice fondateur et repose aussi sur le grand crocodile ancestral chez Yatmoul, qui est en dessous de la maison. Et donc, tout ça, c'est plein de présence, c'est plein d'esprit qu'on peut réveiller.
Oui, parce que les piliers, les surpilotis à cause de l'eau qui passe, les piliers eux-mêmes sont des ancêtres, je suppose.
Absolument. Absolument. Chaque pilier a une représentation ancestrale, comme chaque crochet, en fait, est un ancêtre. Mais une fois de plus, qui peut prendre des noms différents et qui donc peut... c'est le même ancêtre, en fait, mais sous des formes différentes qui apparaît.
Et la maison flotte comme un crocodile sur le fleuve ?
Non, elle flotte sur le crocodile. Ah. C'est parce que les maisons, surtout chez les Yatmoul, hein, les maisons sont construites au centre du village. Il y a une très très grande allée qui en général est maintenant très très bien entretenue avec de l'herbe coupée ras, etc. Et il peut y avoir plusieurs maisons sur cette grande allée. Et les maisons des familles sont projetées latéralement au-delà de la limite de ces allées, hein, qui sont marquées en général par des plantations et des cocotiers ou des arbres. Et pour un Yatmoul, cette grande allée, c'est le fleuve. C'est le sépik. Et sa maison est construite en fait sur le sépik. Et quand on est sur le sépik, donc ce fleuve très très large, on voit de temps en temps flotter des grandes îles, hein, des grandes touffes d'herbe comme ça. Mais ça peut vraiment être des choses très très importantes, hein, très très extraordinaires. Et je crois que c'est Mythe qui raconte même qu'elle a vu un jour une maison dérivée sur une île comme ça au long du fleuve, qui avait été emportée par le fleuve et tout. Bon, c'est parce que c'est un fleuve puissant.
La maison flotte comme une île flottante sur le dos d'un crocodile.
Absolument.
En fait.
Ouais. Et sous cette île, il y a le crocodile ancestral. Il vit là. Et donc la maison, elle repose sur une île, sur le fleuve, qui elle-même, qui est en dessous, il y a le crocodile qui est là et qui se manifeste de temps en temps. Par exemple, quand les gens disent qu'il y a un tremblement de terre, c'est le crocodile qui remue.
Il faut dire que c'est un crocodile qui est à l'origine du monde Yatmoul, hein, qui a son palais supérieur et la voûte des étoiles, et le reste est la terre. Alors justement, nous parlions évidemment de Grégory Bateson. Je propose de l'écouter, nous parler de ce que vous avez évoqué et qui était lié à la sculpture que nous observons, la fameuse chasse aux têtes.
L'activité de la chasse aux têtes était dans une grande mesure un sport. Il ne fallait pas nécessairement en vouloir à un homme avant de le tuer, ni à un village avant de le rasier. On considérait toutefois la majorité des meurtres comme une vengeance. En général, les querelles et les meurtres se réduisaient aux meurtres d'étrangers, c'est-à-dire d'habitants d'autres villages avec lesquels il y avait vendetta. Mais cette règle elle-même n'était pas interprétée de façon trop stricte. Deux mobiles essentiels étaient au principe de ce système, l'orgueil personnel de l'individu et l'orgueil que lui inspire la prospérité de sa communauté, deux mobiles étroitement liés. Sur le plan purement personnel, un meurtrier avait droit à des ornements et à des peintures spéciales, ainsi qu'au port d'une peau de chauve-souris en guise de cache-sexe. Tandis que l'homme, qui n'avait jamais tué, portait l'humiliant cache-sexe en lanière de feuilles de dracéna. Le meurtrier était le héros du navel le plus complexe et donnait de superbes fêtes à ses lanoa nampa, ses époux. Les Yatmoul disent que la prospérité, l'abondance d'enfants, la santé, les danses et les belles maisons cérémonielles résultent d'une chasse aux têtes fructueuse. La prospérité dépend aussi des boines, esprits ancestraux représentés sous la forme de pierres dressées. On plaçait la tête des individus sur les boines et dans certains cas, on enterrait leur corps en dessous.
Philippe Pelletier, nous regardons ensemble cette extraordinaire sculpture, ce crochet qui était suspendu à la maison des hommes, et cette femme étrange exhibe son sexe d'une façon totalement impudique, mais aussi probablement la possibilité générative que ça représente. Qu'est-ce que représente symboliquement ce sujet ?
La femme des origines, la mère originelle, celle qui va créer le monde, celle qui va donner naissance aux lignées. Elle est présente, elle va donner la naissance au monde, mais elle est déjà présente, elle est pas quelque chose qu'un dieu crée, hein. Elle est là, et quand tout à l'heure vous parliez du crocodile comme ça qui crée le monde, effectivement il va accumuler de la terre en remonte sa queue, hein, il fait coaguler la terre et puis il crée les berges.
Petite motte et les berges.
Ouais. Et puis sur ces berges-là, les hommes vont s'installer. Mais dans les mythes, on dit bon, les hommes s'installent. Alors vous dites, attends, d'où ils viennent ceux-là ? Oh ben là-bas, plus loin. Voilà, ils existent, voilà, ils sont là. Mais elle aussi, et en même temps, il y a cette femme originelle qui va créer le monde, qui est une femme très très puissante, hein. En général, ces grandes figures de mères originelles sont aussi des ogresses, hein. C'est des femmes redoutables, c'est des femmes qui sont craintes. Il y avait plein de cérémonies d'ailleurs aussi où les femmes devant les jeunes garçons, les jeunes initiés ou devant les hommes exhiber leur sexe. Il y a des sculptures tout à fait extraordinaires dans les cérémonies du Naven, dans ces séries d'inversions où les hommes portaient une ceinture où il y avait en vannerie, avec un sexe très 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 très, très construit en vannerie comme ça. Et en fait on dit aux jeunes garçons, souviens-toi d'où tu viens.
C'est ça.
C'est elle. D'où tu viens. C'est elle. C'est ton origine, etc. Et bon, mais c'est aussi des femmes qui sont dangereuses parce qu'elles sont ogresses, elles ont besoin. Certaines sont décrites presque comme des chasseuses de tête.
Hein, oui. C'est,
et cette puissance que Bateson évoque tout à l'heure des chasseurs de tête, c'est une puissance tout à fait. Les gens redoutent. Les gens redoutent les chasseurs de tête parce que c'est. Les gens me disaient toujours, le sang appelle le sang. Et un chasseur de tête, c'est un monsieur qui n'a jamais assez de tête.
Oui. Mais c'est en même temps, cet usage qui est désuet aujourd'hui, mais cet usage, tous les villages voisins étaient victimes ou coupables de la chasse aux têtes.
Oui.
Puisqu'il fallait le faire.
Oui. Oui. Mais il y a un équilibre. Je t'en prends une, tu m'en prends une.
Oui.
Ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'avait, quand on m'a intégré dans un clan, hein, c'était un truc un peu fictif, mais pour eux, c'était important. Mais une des choses qu'on m'a expliqué, c'est que que tel clan me devait 20 têtes, que je devais 5 têtes à tel clan, etc. C'était encore marqué, les gens en avaivent complètement souvenir.
J'espère, Philippe, que vous êtes resté en dette.
Oui, j'ai une grosse dette. J'ai une très très grosse dette. J'ai une dette de cochon même.
Dites-moi, j'ai vu deux sculptures semblables dans l'exposition. Mm. Donc il y a deux mères originelles comme ça, avec les jambes complètement écartées, présentant leur vulve. L'une, celle que nous regardons plus particulièrement aujourd'hui, a les jambes qui se terminent en tête d'oiseau peut-être, et l'autre a des serpents à l'intérieur des jambes. Qu'est-ce que c'est ces deux symboles ?
C'est les formes que les êtres originaux peuvent prendre. Alors, suivant les mythes et suivant les clans, j'ai peint des ancêtres. Ils prennent des formes animales. Elles diffèrent suivant les clans. Toute la nature chez les Yatmoul est absolument répartie entre les clans. Moi, j'ai dans mon clan. Par exemple, des crocodiles, mais telle variété de serpents, telle variété de plantes, type d'oiseau, etc., etc. Et puis le clan d'à côté, il aura un cochon, il aura telle variété de plantes, d'autres variétés de plantes, d'autres variétés de cocotiers, d'autres variétés de sagoutiers, par exemple, etc., etc.
Le sagoutier, c'est
ce qui donne. C'est un palmier qui donne la nourriture, hein, dans l'extrait
de la sorte de gelée ou de farine fibreuse.
Oui, c'est de la maïzena.
Oui.
Hein, c'est de la fécule de pomme. C'est la mégina, c'est de la fécule de pomme de terre, mais eux, ils ont la fécule de sagoutier et on mange.
C'est une des bases de l'alimentation.
Absolument, oui. Un jour sans sagou dans le CEPIC, ça n'existe pas. C'est comme pour un Français un jour sans pain. C'est l'horreur. On vit très très mal. Et alors toutes ces figures qui sont ici, que ça soit des serpents ou des oiseaux ou d'autres choses, sont rapportées à un clan très très précis. Ça veut dire que quand les gens voyaient cette sculpture-là, probablement ils savaient à quel clan exactement la figure se rapportait. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut prendre. C'est là où ça devient compliqué pour nous à comprendre. Hein. Elle peut prendre plusieurs formes parce que elle peut changer de nom. Parce qu'un ancêtre, ça change de nom et ça prend plusieurs formes en fonction. Tout simplement parce que un ancêtre, c'est on se réincarne.
Oui.
Donc on va avoir plusieurs avatars au cours de sa vie, par exemple. Hein, j'ai toute une lignée d'ancêtres qui sont en fait des réincarnations de l'ancêtre primordial.
Il y a un texte très beau dans lequel vous parlez de l'instabilité des images. C'est un texte de vous.
Ouais.
C'est ça, c'est cette instabilité des images.
Absolument.
C'est-à-dire l'identité flottante des représentations.
Absolument. C'est ça qu'on a voulu aussi montrer dans l'exposition. Et on a construit toute l'exposition avec les deux co-commissaires que j'ai eus qui m'ont aidé à faire l'exposition. Et j'étais pas le seul, hein. Il y avait Christian Kaufmann et Marcus Schindelbeck. C'est ce qui nous a importé, en fait, de montrer et de faire comprendre aux gens, c'est l'instabilité des images.
Voilà. Je rends hommage à Christian Kaufmann qui vraiment est un anthropologue extraordinaire à l'origine du développement moderne de la collection de Bâle et qui a fait un travail passionnant. Je vous posais une question quand nous étions dans l'escalier tout à l'heure en venant sur les esprits Vanken. Moi, ça m'a épaté. Je ne reconnaissais pas leur nom et j'ai compris qu'ils étaient redoutables.
Oui.
Qu'ils sont peut-être représentés. C'est peut-être eux qui sont là au bout des jambes de cette dame ou pas.
Alors il y en a sur un autre crochet dans l'exposition. C'est probablement des esprits qui sont des Vakn, hein, des esprits. Alors ça c'est pas des ancêtres.
V-A-K-N.
Oui, Vakn. Et c'est pas des ancêtres.
Non.
Non. C'est des esprits qui gardent le territoire. Parce que évidemment chaque clan il a son territoire. Qui sont son territoire de chasse, son territoire de pêche.
D'ailleurs, les grandes discussions dans les maisons des hommes, c'est ça, entre autres, c'est la terre.
Absolument, ça n'arrête pas. Hein. Tu viens de pêcher dans mon trou d'eau, là. Alors ça, c'est l'horreur. Ça commence, la bataille commence. Hein. T'as pris trois poissons, t'avais pas le droit. T'as construit ton jardin là où t'avais pas le droit, etc. C'est
pagnolesque, hein, l'histoire.
Ah, complètement. Non, mais c'est le monde paysan, il est immuable à travers la surface de la terre. Hein. C'est pourquoi et t'as pas le droit de venir. Bon. Et donc pour garder son territoire comme ça, il y a des puissances qui sont là, qui sont des esprits, qui sont redoutables aussi, hein, qui sont dangereux. Une des métaphores qui est utilisée pour parler des Vakn, c'est les nœuds de serpent. Mmh. Nous, on sait plus ce que c'est qu'un nœud de serpent dans nos villes, hein, parce qu'on en voit plus et tout. Mais effectivement, à certaines saisons, les serpents se réunissent comme ça en nœud. Et puis il y a des serpents. Alors, il y a des serpents. Les gens aiment pas trop les serpents. Hein, et on comprend parce qu'il y a des serpents excessivement dangereux. Et un petit serpent noir. En général, quand il vous mord, 3 minutes après, vous êtes plus là. C'est radical, c'est très bien, on a vécu et voilà, adieu. Et donc ces serpents qui sont là, mais ça peut être d'autres animaux aussi, sont des gardiens de territoire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est quand les gens déménagent ou partaient un peu plus loin, on emmène ces esprits avec soi. Mm-hmm. Et ils rebalisent le territoire sur lequel vous allez vous installer. Hein, c'est des choses qui vous accompagnent.
Qui sont à la fois dangereuses et qui vous défendent aussi.
Absolument.
Qui peuvent être d'instruments d'attaque ou de protection, d'une certaine
absolument.
Façon.
Absolument. Oui. Et c'est probablement que ce crochet est aussi ou comporte un certain nombre de représentations de Vakn.
Alors pour ce crochet, justement, il y a ces épaules étranges, complètement scarifiées. Qu'est-ce que c'est que ces scarifications?
Ah. Oula, ça c'est une
longue histoire.
Ouais, ça c'est une longue histoire. En fait, quand un jeune garçon est initié, l'un des premiers gestes qu'on fait sur un jeune garçon, c'est de le scarifier. On va lui couper la peau. On va lui faire des petites entailles, comme ça, systématiques.
Sur les femmes aussi ou seulement les hommes?
Alors, normalement...
Parce que là, c'est une dame qui est scarifiée.
Absolument. Normalement, c'est que sur les garçons. Mais, il y avait un certain nombre de femmes qui étaient très importantes pour la société, parce qu'elles étaient les premières nées du lignage majeur d'une société, donc elles ont un statut tout à fait particulier, et elles pouvaient être initiées, elles pouvaient être scarifiées. Et aussi, une femme qui a eu une lignée, qui a eu des enfants toute une lignée d'enfants importante, et qui donc a été à l'origine de la reproduction de son groupe, une femme, à un moment donné, peut virer complètement du monde féminin dans le monde masculin.
À ce moment-là, elle est comme scarifiée a posteriori, d'une certaine façon.
Ouais.
C'est ce qui est arrivé peut-être à cette dame.
Bien sûr.
C'est qu'elle n'était pas, elle n'avait pas la puissance des hommes, mais comme elle a pris une puissance originelle, elle est scarifiée parce qu'elle participe de l'autre nature.
Ouais, absolument. Elle est masculine.
Elle est masculine, oui.
Elle est ancêtre, en fait. Elle est ancêtre presque masculin du même statut que qu'un homme très important. Et ces scarifications, ça marque son ancestralité. Ça marque que c'est quelqu'un de très, très, très important.
Alors, quand je les regarde, ces scarifications, je me dis que ça ressemble à une peau de crocodile, justement.
C'est une peau de crocodile.
Vous voulez dire que c'est fait pour ressembler
ouais.
à...
Oui, oui. Et quand on est chez les Yatmoul...
Quand vous êtes
ailleurs, c'est
adolescent,
pas...
deuxième niveau de la
division. Non. À peu près au deuxième niveau. Oui. Le premier niveau, normalement, c'est le percement du septum nasal. Et donc, quand les jeunes garçons qui sont un peu pubères, qui juste rentrent dans la puberté, 14-15 ans, vont en initiation, ils rentrent dans l'enclos. Le premier geste qu'on fait, c'est effectivement les scarifier. Et on va leur scarifier le dos. Ça descend jusqu'à l'arrière des cuisses et puis ça monte sur les épaules, ça gagne les épaules et ça gagne aussi la poitrine. Et ces petites, toutes petites entailles, il y a tout un travail qui se fait où on les lave, on les gratte. Ça fait mal, ça saigne.
Oui.
On met de la terre dedans avec une huile de manière à ce que ça fasse une boursouflure et que ça fasse comme une écaille de crocodile.
Alors je vous propose, puisque nous en parlons, d'écouter ensemble. L'amie de Bateson, Margaret Mead, cette grande exploratrice, et qui dans Mœurs et sexualité en Océanie nous décrit la cérémonie de la scarification. Nous y sommes.
À un âge qui se place entre 8 et 12 ans, selon les ambitions cérémonielles de son père, on le scarifie. Il est maintenu solidement contre un rocher, pendant qu'un oncle maternel éloigné et un artiste en scarification incisent son dos. Il se tord de douleur, il peut hurler tant qu'il lui plaît. Personne ne cherche à le consoler, ni même à étouffer ses cris. Personne non plus n'y trouve motif de satisfaction. Préoccupés uniquement de leur tâche, les deux hommes accomplissent, l'un en tant que parent, son devoir rituel, l'autre sa besogne d'artiste. Les incisions, une fois faites, ils enduisent d'huile et de curcuma le dos du jeune garçon. Celui-ci se trouve le centre d'un cérémonial complexe auquel il ne participe pas. Tout le jour, il doit rester dans la maison des hommes. Tous les 4 jours, il se lave et remet une nouvelle couche de peinture. L'oncle maternel de l'enfant lui fait don d'une ceinture tressée aux motifs savants, de parures de coquillages, d'un bel étui à chaux en bambou et d'une jolie spatule sculptée en filigrane. Puis, ses cadeaux sous le bras, le garçon accompagne ceux qui vont distribuer en son nom de la nourriture ou des taliboons ou des quinasses. Il est censé maintenant consacrer plus de temps à la maison des hommes. Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1935.
êtes sur France Culture, vous écoutez l'exposition Les Regardeurs. Nous observons ensemble un extraordinaire crochet orné Yatmoul qui se trouve exposé en ce moment dans l'exposition CEPIC qui est au musée du Quai Branly. Et j'ai la chance d'être avec son commissaire, Philippe Pelletier. Et nous venons d'écouter un commentaire sur la scarification, puisque nous parlions avec Philippe Pelletier des épaules de la déesse originelle, pas de la déesse, le mot est faux, de l'ancêtre originel, qui a les épaules scarifiées et qui évoque évidemment, irrésistiblement, la peau du crocodile. Et je voulais vous demander, Philippe Pelletier, à ce propos-là, est-ce que les scarifications ont des registres divers? Est-ce que là, c'est la peau du crocodile, pour un autre, ça sera les ocelles d'un serpent ou pas?
Non, en général, c'est le crocodile. En tout cas, c'est devenu le crocodile. Après, alors ça dépend des groupes. Hein. Il y a les scarifications, elles peuvent prendre des formes tout à fait différentes suivant les groupes. Mais là, chez les Yatmoul, c'est vraiment les crocodiles. Et tout le monde porte à peu près les mêmes scarifications.
Donc, tout le monde chez les Yatmoul, quel que soit le clan, en fait.
Absolument. Tous les garçons sont scarifiés d'une peau de crocodile. Parce que c'est quand même le grand ancêtre, le crocodile. C'est lui qui concentre toute l'ancestralité, en fait.
Alors, j'étais étonné d'entendre, au fond, la grande indifférence de la douleur chez ceux qui le subissaient, puisque de toute façon, tous le subissent à un moment donné de leur vie. Donc, je comprends que ça rende indifférent, mais on a l'impression qu'il faut surtout pas déranger l'artiste en train de le faire. Et ça me permet de vous interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste dans le monde Yatmoul? Est-ce que tout le monde est capable de faire un crochet comme cela? Ou est-ce que quelques-uns plus doués sont reconnus et traités comme artistes? Est-ce que ça existe, un artiste?
Oui, ça existe, bien sûr. Dans les villages, ce qui est assez étonnant, c'est que les petits garçons, tout petits, hein, ils prennent un couteau. Actuellement, on les voit, ils prennent un couteau, puis ils commencent à sculpter, comme les enfants, en fait. Hein, puis ils se mettent à côté d'un plus grand qui est en train de sculpter, ils essaient d'imiter. Hein, c'est très marrant à voir. Et puis il y en a qui, au bout d'un certain temps, ça les intéresse plus. Bon. Et puis il y en a qui, ça les intéresse, ils deviendront des artistes, effectivement. Et puis il y a aussi dans les villages, et ça tout le monde le sait, des grands artistes.
Qui sont recherchés.
Oui. À avoir une pièce d'un tel ou un tel, oui, oui. Ah non, là, c'est. Là, oui. C'est du prestige, là. Ah oui. Non, ça se passe pas comme ça.
Et cet artiste est lié à un clan ou il peut passer d'un clan à un autre?
Non, non, il peut produire pour n'importe quel clan.
Pour absolument, un autre village.
Absolument, il peut produire pour un autre village. Il peut produire pour un autre clan. Mais sa main est reconnue. Et on dit qu'on prend sa main, hein, qu'un tel a pris la main de un tel.
Qu'un tel a pris la main de un tel, ça veut dire qu'un artiste a pris la main d'un ancêtre artiste?
Oui. Il a la génération d'avant, il y a quelqu'un dont il imite la façon, en fait, la façon de faire. Ça veut dire aussi que les gens ont une certaine variation, hein, ils peuvent inventer des choses, mais il y a indiscutablement des grands artistes. Puis il y a des gens dont les gens vous disent oui, il sculpte bien, oui, c'est intéressant ce qu'il fait, c'est pas mal, quoi.
Donc il y a un regard critique, ouais, sur l'objet.
Bien sûr.
On le commente, discute.
Ah bien sûr. Oui. Ah non, il y a des objets qui sont forts, il y a des objets qui sont réussis.
Mais il y a des objets qui sont chauds, alors, si j'ose dire.
Oui, bien sûr. Il y a des objets qui sont chauds aussi parce qu'ils sont chargés.
C'est ce que je veux dire.
Oui. Ah, il y a des objets qui deviennent des espèces de réceptacles comme ça, plus importants que d'autres. Par exemple, le tabouret d'orateur dont Betson en parle tout à l'heure, j'en parlais dans le texte que vous avez lu, un tabouret d'orateur, c'est un objet chaud, hein.
C'est l'objet le plus important de la maison des hommes, probablement.
Oui, c'est l'objet le plus important.
Donc, mais c'est pas du tout, c'est étrange parce que vous dites tabouret, et parce qu'on les appelle comme ça, mais en fait, on ne s'asseyait jamais dessus.
Jamais. Et il y a des touristes imbéciles qui s'assoient dessus. Alors ça, c'est l'horreur.
Oui, c'est difficile à récupérer.
Ouais,
oui.
Ça, c'est...
Ceux-là, ils sont bons pour les chasseurs de tête.
Ah oui, non, ça, c'était la mort absolue, ça.
Mais alors, parfois, on sort, quand il se passe quelque chose de très important, ce tabouret, on le sort de la maison.
Oui, parce que c'est l'ancêtre qui est... C'est une des formes, un avatar de l'ancêtre, une représentation d'un avatar de l'ancêtre de la maison des hommes.
Et, donc, on veut qu'il regarde, c'est ça? On veut qu'il regarde, oui, ce qui se passe dehors, donc on le sort comme un cousin.
Absolument. Et quand on commence à parler à côté de lui et qu'on frappe, on frappe pas, on dépose les branches sur le pupitre, en fait, qu'il y a. Le tabouret de l'ancêtre est là. Lors des grandes discussions, on considère que l'ancêtre est là et que l'ancêtre est témoin de la discussion. Et par exemple, quand il y avait les hommes lançaient des grandes pirogues de guerre, ça, un des anthropologues qui avait travaillé après Bateson, Milan Stanek, dans le même village que Bateson, qui s'appelle Palimbay, il a raconté qu'il avait vu ça une fois. On avait lancé une grande pirogue d'un clan, ces énormes pirogues qui étaient autrefois les grandes pirogues de guerre, et que
il y en a deux dans l'exposition qui sont fantastiques.
Ouais, il y en a une qui est pas mal. Enfin, il y en a deux qui sont bien. Oui. Non, mais il y a une pirogue du fleuve qui est bien. Oui, non. On a de la chance de voir ça, hein, parce que c'est pas facile à transporter. Ça fait quand même plusieurs mètres de long. Et quand on lançait ces grandes pirogues, en fait, on pouvait effectivement. Alors, c'est des pirogues très chargées, hein, les pirogues de guerre. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est de l'ancestralité qui va à la guerre. Hein, c'est l'ancêtre crocodile qui va à la guerre avec les hommes. Il faut imaginer les hommes parés dessus, etc. Et donc, ces grandes pirogues avaient une puissance. Hein, très importante, c'était redouté, c'était ces pirogues étaient des tueuses. Elle permettait de tuer l'ennemi. Enfin, et donc, au moment où il y avait une grande cérémonie de lancement, et on pouvait sortir le tabouret d'orateur, c'était la figure ancestrale, en fait, qu'on sortait, et qui assistait au lancement de cette pirogue.
Vous pensez, le crochet que l'on regarde en ce moment aujourd'hui pouvait être sorti, ou c'était plutôt une pièce intérieure qui restait?
Non, je pense que c'était plutôt une pièce intérieure.
Oui.
On sort pas beaucoup ce genre d'objet. Non. C'est parce que c'est des choses où en tout cas on n'a pas de description ancienne, on n'a pas de témoignage ancien où on sortait ce genre.
Mais il faut dire qu'à l'extérieur de la Maison des Hommes, il y a déjà des présences ancestrales. Il y a le grand masque de fête. Mmh. Il y a les oiseaux qui sont sur les deux. Comment est-ce qu'on appelle
ça? Les épiphétiers.
Les épiphétiers. Mmh. Il y a les saints de la mer en terre, comme ça, qui sont sur les côtés. Ces saints de la mer, c'est les saints de celle dame, là.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Une maison des hommes, c'est la mer originelle.
Les hommes habitent dans la mer originelle,
oui.
Vous voulez dire?
Oui. Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont enfantés.
Ils rentrent tous les jours.
Ils rentrent tous les jours dans l'utérus originel.
Oui. Et les grands débats, c'est à l'intérieur de la mer originelle.
Hmm. Et les oiseaux qui sont sur les épiphétiers, c'est des oiseaux chasseurs. Ils vont prendre les hommes comme on prend des poissons, quelque chose comme ça.
Oui. Alors ça, c'est un des grands mythes Yatmoul, effectivement. En fait, cette mer originelle, elle va enfanter deux œufs. Au fond du, elle vit au fond du fleuve. Et puis elle va donner naissance à deux œufs. Et de ces deux œufs va sortir d'un côté un crocodile, évidemment. Et de l'autre côté, en général, dans les versions, alors ça dépend des versions qu'on a, mais les versions les plus connues, c'est un crocodile d'un côté, un aigle pêcheur de l'autre, qui sont les deux grands prédateurs.
Hein.
Et puis, au bout d'un moment, évidemment, l'aigle pêcheur, il en a ras-le-bol d'avoir sa mère au fond de l'eau. Donc, il va aller la pêcher comme il pêche un poisson. Quoi. Il va la sortir de l'eau et puis il va l'emporter sur un arbre où elle va vivre. Et c'est ça qui est représenté en fait dans certains épiphétiers. Hein. C'est le moment où l'aigle pêcheur emmène sa mère à vivre sur un arbre avec un crocodile.
Donc il est réellement lié à cette figure que nous regardions
absolument,
ensemble, la grande mère ancestrale.
Absolument. Oui, ça peut être son fils, hein, ça peut être son fils. Et alors les épiphétiers, le Gregory Bateson raconte aussi que cette mère dont j'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être une ogresse, c'était une mère violente, comme toute mère. On a tous connu ça.
On a tous une mère sévère.
Oui, absolument. On a eu un père sévère et on a aussi une mère sévère. Mais aussi une mère qui pouvait être tendre.
Bien sûr.
Hein, je veux dire, elle vous a autant nourri qu'elle vous a puni. C'est un peu caricatural presque ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. Mais à un moment donné, la mère des origines, c'est pas une mère facile. Hein, et surtout, ce qu'elle veut, c'est que son clan et que ses ancêtres et que ses enfants, ils aient du grand prestige. Et pour avoir du grand prestige, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller chasser des têtes. C'est ce qu'on, là aussi, ce que Bateson raconte. Il faut aller chasser les têtes. Et donc, cet épiphétier, en fait, Bateson dit, la figure, elle est là et elle regarde au loin les ennemis dans les autres villages comme des petits poissons qui frétillent dans la rivière. Et donc, elle est vraiment contente quand les gens partent à la chasse aux têtes. Parce que c'est tout d'un coup du prestige qui va revenir dans le village.
Je trouve ça extraordinaire parce que de vous écouter, Philippe Pelletier, parler de cette mère originelle, parce que quand je vous entends, c'est pas du tout seulement la mère du Sépik ou des Yatmoul, c'est la déesse mère des hommes d'une certaine façon. Il y a une sorte de constante ontologique. On la connaît en Occident, dans la préhistoire, la protohistoire, etc.
Absolument.
Finalement, ce n'est pas le Sépik que vous explorez, c'est l'homme, non?
Oui, bien sûr. C'est la même histoire qui est partout. Mais ça, bon, alors ça nous emmènerait trop loin, hein, probablement, hein, parce que ça va nous emmener à travers le monde. Oui, c'est la même histoire partout.
Qu'est-ce qui nous enfante? Qu'est-ce qui nous protège?
Absolument. Et les Yatmoul sont des gens qui portent ça dans les initiations. Parce que la société du Sépik, c'est une société qui est très séparée entre les hommes et les femmes. Il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Les hommes ont leur activité, les femmes ont leur activité.
Sans que ce soit du tout une domination, d'ailleurs, j'ai l'impression.
Non.
C'est un équilibre, pas une domination.
Absolument. Souvent on le lit comme une domination. Alors c'est vrai que les femmes travaillent beaucoup, les femmes nourrissent les enfants, etc. Mais elles sont pas effectivement inférieures. Elles sont pas considérées comme étant des êtres inférieurs. Hein. Elles sont vraiment très 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 importantes. Et puis elles ont un pouvoir absolument fondamental. Elles font les enfants. Or, moi, mec, qui suis un grand chasseur, ok, qui suis un big man comme ça, qui est un type qui est plein de prestige et tout, il y a un truc que je ne pourrais jamais faire, jamais, un gosse.
Oui. C'était l'histoire extraordinaire de notre mère à tous, cette grande... Mère des origines, Yatmoul, ce grand crochet. Merci infiniment, Philippe Pelletier, pour ces magnifiques commentaires.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble un objet extraordinaire, je dois dire, de la culture Yatmoul dans la vallée du Sépik en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je vous rappelle qu'en ce moment, vous pouvez aller l'admirer un peu plus près. Cette œuvre, bien sûr, mais aussi bien d'autres objets d'une richesse exceptionnelle au sein de l'exposition Sépik au musée du Quai Branly à Paris, et ce jusqu'au 31 janvier. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr et en particulier les références du catalogue remarquable qui a été fait sous la direction de Philippe Pelletier. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, vous allez le trouver là-dessus. Lecture des textes Daniel Lebrun, à la technique Manuel Couturier, réalisation Franck Lilin, merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Jean Loisy et Sandra Adam. Et dans quelques instants, Catherine Libère et Ville Monde. You go back. Go until you come, babe. Come until you go back. Come for me.